Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour votre podcast consacré à l'actualité de la Formule 1. Actualité basée évidemment sur le Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas. Et pour m'accompagner aujourd'hui, l'incroyable, l'invaincu, l'inégalable Julien Pereira. Bon, j'essaye de la jouer à l'américaine, mais faut que je travaille un peu. Ça va, Jap?
Quel accueil, ça va, merci, merci. T'as plus de voix que Stéphane
La semaine dernière.
Oui, et oui. Aujourd'hui aussi encore.
Exactement, ouais. On le salue d'ailleurs, Stéphane Vrignot, mon habituel confrère aussi d'ailleurs. Au sommaire, Julien, aujourd'hui, Verstappen-Red Bull, l'invincible duo, 13e victoire cette saison pour le Néerlandais, malgré un problème lors d'un changement de roue, et le titre constructeur pour Red Bull assuré. On reviendra aussi sur le crash entre Lance Stroll et Fernando Alonso. On essaiera de décrypter ce qui s'est passé, défense agressive, changement de direction. On va revenir sur cette mauvaise manie qu'ont pris les pilotes et sur une nouvelle fois un sentiment d'incohérence concernant les pénalités. Et puis Simon Pagenaud sera notre invité dans la dernière partie de l'émission. Le vainqueur des 500 miles d'Indianapolis nous dira ce qu'il pense de ce qu'il a vu le week-end dernier au Texas, avec notamment le défilé des vedettes. On parlera aussi du sentiment qu'éprouvent les pilotes d'IndyCar par rapport à la Formule 1, et puis de plein d'autres sujets passionnants, parce que Simon Pagenaud est un interlocuteur passionnant. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute, les fous du volant, aujourd'hui avec Max Verstappen et Red Bull, l'invincible duo. Alors, on va essayer de mettre des chiffres sur cette domination, mais au lendemain de l'annonce du décès de Dietrich Mateschitz, le fondateur de Red Bull et grand fan de sport auto, hein, qui avait donc installé deux équipes en Formule 1. Ce cinquième titre constructeur vient couronner une saison 2022 assez exceptionnelle pour les hommes de Christian Horner, 8e victoire consécutive pour Red Bull, désormais 187 points d'avance sur Ferrari, avec 3 grands prix encore à négocier. Red Bull ne pourra plus être rejoint. Julien, on essaye de mettre des chiffres sur ce qui s'est passé. On essaye de comprendre un petit peu mieux la domination vraiment nette de cette auto, mais aussi de ce pilote, parce que quand c'est Sergio Pérez qui est au volant, c'est un petit peu moins flagrant. Elle était au-dessus du lot, la Red Bull, ce week-end. On a même entendu Max Verstappen dans la première partie de course quasiment bavarder à la radio. C'était assez impressionnant.
Ça dit tout de la relation qu'il y a aujourd'hui entre Max Verstappen, sa monoplace et son équipe. Si on prend le spectre large, cette saison-là, elle était quand même très mal partie. On se souvient des problèmes de fiabilité en début de saison, des problèmes de poids aussi, qui ont duré jusqu'au milieu de l'été. Et finalement, il y a eu une progression sur ces plans-là, mais la base du concept était déjà très bonne. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la Red Bull est tout simplement la meilleure voiture du plateau et peut-être probablement même la meilleure voiture Red Bull de l'histoire de la Formule 1.
Oui, alors, j'ai regardé rapidement sur les 4 premiers titres constructeurs de Red Bull. La firme autrichienne n'a pas toujours été en tête dès le début de saison. Il y a parfois eu un petit peu de retard à l'allumage, mais jamais comme cette saison où il y a eu jusqu'à 46 points de retard, notamment au classement des constructeurs après les 3 premiers Grands Prix de la saison. Là, je le disais, 187 points d'avance. Et toi, tu t'es attardé justement sur des chiffres durant ce Grand Prix des États-Unis, des chiffres qui montrent à quel point cette voiture est devenue dominante sur le plateau.
Oui, parce qu'en fait, l'avantage du circuit d'Austin, c'est qu'il permet de voir très facilement les qualités et les défauts de toutes les monoplaces. Et là, finalement, on a vu très bien ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est que, la Red Bull a un avantage qui est considérable, c'est celui du moteur. Red Bull, on l'a vu en qualification, a été capable d'atteindre une vitesse maximale allant jusqu'à 327 km/h. C'est 6 km/h de plus que Ferrari et 7 de plus que Mercedes, donc c'est déjà important. Et puis de toute façon, on l'a aussi vu en course avec les dépassements. Leclerc a dit très tôt durant la course qu'il ne pouvait rien faire parce que les Red Bull étaient trop rapides en ligne droite. Il a été un petit peu spectateur quand Verstappen lui est passé devant en toute fin de course. Et puis avec Mercedes, je crois qu'il y avait un delta au moment du dépassement, avec aide du DRS évidemment, de plus de 30 km/h. Donc on est sur un gap colossal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi que la Red Bull est d'une complexité et d'une efficacité aérodynamique qui est extrême et qui est absolument extraordinaire. On se souvient, quand on l'a vu la première fois au test de pré-saison à Barcelone, quand on a vu le concept arriver, on s'est dit « Ouh là là, il se passe quelque chose chez Red Bull ». Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, la Red Bull n'est pas la Formule 1, la monoplace qui a le plus d'appui aérodynamique. C'est la Ferrari qui est la plus performante sur ce plan-là. Mais ce n'est certainement pas celle qui a le plus de traînée non plus, parce que Mercedes a de gros problèmes sur ce plan-là. Red Bull est un petit peu plus à l'équilibre. Ce que les rivaux essayent de comprendre, c'est comment cette monoplace-là, qui génère quand même beaucoup d'appui, peut aussi générer aussi peu de traînée dans les longues lignes droites. On l'a très bien vu à Austin hier.
C'est vraiment la quadrature du cercle. Ils ont réussi à avoir une des autos qui a le plus d'appui, et une des autos qui a le moins de traînée en ligne droite. Et il faut bien comprendre, quand vous mettez un aileron, ça génère de l'appui, ok, très bien. Donc dans le sinueux, vous avez de l'adhérence et vous pouvez aller plus vite, mais forcément, ça normalement, voilà, dans les lignes droites, ça génère de la traînée. Eux, ils ont réussi à réduire quasiment cette traînée.
Peut-être qu'on peut essayer de vulgariser pour ceux qui sont un petit peu moins initiés. Globalement, il y a deux forces qui sont au cœur de tous les travaux des ingénieurs en Formule 1. C'est donc l'appui aérodynamique, c'est ce qui vous permet d'avoir de l'adhérence, d'avoir la voiture plaquée au sol, d'être rapide dans les virages, de moins dégrader vos pneumatiques aussi. Et il y a une autre force dont on essaye de se débarrasser, c'est la traînée aérodynamique. C'est le fameux effet parachute. Vous vous mettez à la place d'un pilote de Formule 1 en ligne droite et vous imaginez que vous avez deux gros parachutes derrière qui vous retiennent. Et donc cette force-là, on essaie de s'en débarrasser. C'est toute l'équation qui est évidemment très difficile à résoudre. Et finalement, Red Bull a réussi à trouver un équilibre qui est assez extraordinaire et qui permet à cette RB18 d'être peut-être la monoplace la plus performante de l'histoire de Red Bull en Formule 1, y compris devant celles qui ont permis à Sébastien Vettel d'être titré entre 2010 et 2013. Parce qu'on parlait de la puissance moteur en tout début d'émission. Il ne suffit pas d'avoir la puissance moteur. Prenez l'exemple, le contre-exemple plutôt, Williams, qui est très performant aussi sur ce plan-là, mais qui n'est quasiment jamais aux avant-postes. L'explication, c'est qu'il y a un concept aérodynamique. Vous parlez d'Adrian Newey la semaine dernière, et c'est lui qui est derrière tout ça. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à Verstappen de rouler sur des records.
Exactement, on va en parler justement de ce record. On l'avait évoqué la semaine dernière, la possibilité d'égaler le record codétenu par Sébastien Vettel et par Michael Schumacher de 13 victoires en une saison. Ça y est, on y est. C'était en 2013 pour Vettel, en 2004 pour Schumacher. On est à niveau.
Et il y a un record absolu qui est encore dans le viseur de Verstappen.
Pour ceux qui aiment être vraiment précis.
Il faut rapporter le nombre de victoires au nombre de grands prix disputés sur la saison. Donc ce petit jeu-là, c'est Schumacher qui est devant, parce que le pourcentage atteignait 72,22%.
Je crois qu'il y avait 18 grands prix en 2004 et c'était 19 en 2013.
Exactement. Et pour battre ce record-là, Verstappen doit gagner les trois derniers grands prix de la saison, ce qui lui permettrait d'atteindre un pourcentage de 72,73.
C'est ça, donc pour un demi-pourcent, il serait le seul détenteur dans ce domaine. Alors évidemment, on avait évoqué la semaine dernière que c'était la 187e victoire d'une voiture fabriquée par Adrian Newey au Japon. Ça fait donc 188. Et on a le sentiment que cette voiture, elle sera favorite au Mexique, au Brésil et à Abu Dhabi pour la finale de ce championnat. C'est le sentiment qu'on avait avec Stéphane, tu le partages ?
Oui, totalement, parce que en fait, finalement, ce qui s'est passé hier avec le fameux pit stop raté, on s'est dit, mince, là ça va être compliqué. Quand on voit le rythme de Verstappen en fin de course, quand on voit avec quelle facilité il a réussi à déborder Hamilton, on se dit que sur des circuits, notamment à Abu Dhabi, qui notamment fait la part belle à la puissance, on a du mal à imaginer Red Bull être battu à la régulière, d'autant que même l'écart avec Ferrari a quand même beaucoup augmenté depuis
surtout en course, clairement. Et en fait, ce qui est intéressant, et je me suis fait la réflexion en fin de course pendant le Grand Prix, là, c'est que on se retrouvait avec Hamilton qui était en pneu dur face à un Verstappen qui est en pneu tendre. Et en fait, c'est une tendance récurrente, c'est que elle arrive à générer tellement d'appui, cette Red Bull 18, cette RB 18, qu'on peut se permettre finalement de lui faire prendre des pneus plus tendres parce qu'elle les dégrade moins. Alors pareil, on va essayer d'expliquer pour ceux qui suivent un petit peu moins la chose Formule 1. Plus une voiture est plaquée au sol, moins elle a tendance à faire glisser ses pneus. Et c'est en faisant glisser les pneus qu'on les abîme. Donc s'ils ne glissent pas, ils se dégradent moins. Et donc, vous pouvez prendre des pneus plus tendres. Et c'est là-dessus que c'est démoniaque. Et on voit que très, très régulièrement, cette voiture qui semble générer plus d'appui, donc qui est plus rapide dans le sinueux, peut en plus emmener, en général, des pneus qui sont un cran plus tendre que celle de ses adversaires. Donc, c'est exponentiel parce que, vu qu'elle a des pneus plus tendres, eh ben, elle peut aller plus vite dans le sinueux. Imbattable, ça devient carrément imbattable.
Il y a également un autre facteur qui est important et qu'on a très bien vu encore une fois dimanche, notamment sur les caméras embarquées, c'est l'appui immédiat, la question de la traction. Globalement, pour avoir de l'appui, plus vous allez vite, plus vous avez de l'appui. Donc, pour pouvoir avoir de l'appui, vous devez accélérer et avoir beaucoup de sensibilité à la réaccélération. On a vu Leclerc qui avait beaucoup de patinage, notamment à la sortie des épingles. Verstappen, globalement, il pouvait mettre le pied très vite sur l'accélérateur, appuyer très fort, et la voiture ne patinait pas. Donc, beaucoup de points forts quasiment aucun point faible.
J'ai failli te couper quand tu nous as dit le circuit d'Austin, et il permet de voir les forces et les faiblesses. J'avais envie de dire, pour la Red Bull, on a vu les forces et les forces. Parce que c'est quand même difficile de trouver une faiblesse à cette auto. Petite remarque quand même, on avait évoqué à plusieurs reprises depuis le début de la saison le phénomène de maturation de Max Verstappen, hein, qui ne piquait plus de colère. Bon, moi j'avais dit, bon, c'était quand même parce qu'il n'y a plus trop de danger, plus trop d'adversité devant lui. Bon là on a vu, hein, un problème dans les stands. Ouh, le sale gosse était pas loin. On l'a vu tout de suite donner de la voix et il a fallu que son ingénieur lui dise « Écoute, on est ensemble, on baisse la tête, on cravache. » Quelque part, ça lui a donné un beau challenge d'aller rattraper Lewis Hamilton.
Oui, c'est toute la question de la réaction à chaud. On a très bien compris à la réaction du muret Red Bull qu'eux, ils avaient toutes les données sous les yeux, qu'ils ont très bien vu que c'était encore largement jouable pour la victoire. Et c'est pour ça qu'ils sont restés très calmes aussi à la radio. Je pense que Verstappen a très vite compris aussi qu'il y avait beaucoup de sérénité derrière et qu'il aurait les capacités, les possibilités pour aller chercher Hamilton.
N'empêche qu'il est là et qu'il a pas perdu ce tempérament parce que au final, de toute façon qu'il fasse deuxième, ça changeait pas grand chose. Mais là, il a été quand même très très contrarié, pas par une erreur humaine. En plus, c'est vraiment un problème de pistolet pneumatique dans les stands. Donc, on sent que le tempérament est toujours là et qu'il ressurgira à la moindre occasion.
Et on sent aussi, en tout cas c'est mon avis personnel, que la question du record justement des 16 victoires,
oui,
pour avoir ce pourcentage, ça compte beaucoup dans son état d'esprit là.
Bon, donc allez, on confirme, on pense qu'il pourra aller chercher ce record.
Oui, à la régulière je pense que oui.
Bon, alors ça veut dire la 13 victoires, possible 16 à la fin de la saison, et ce qui confirmerait notre titre, hein, Verstappen Red Bull, l'invincible duo. Pour l'instant on voit que là dans l'équation plus personne ne peut s'intégrer, même Charles Leclerc qui a fait une belle course, bon il partait d'un petit peu plus loin, Carlos Sainz qui loupe son départ, qui s'accroche avec George Russell, en plus il y a vraiment tout pour dérouler une voie royale aux Néerlandais à chaque fois, quoi.
Oui, et puis aussi ce qu'on a évoqué tout à l'heure, Ferrari peut rivaliser en qualification, quand il y a la question du rythme c'est beaucoup plus compliqué, sans parler de stratégie.
Le deuxième élément qu'on voulait évoquer dans les fous du volant aujourd'hui après ce Grand Prix des États-Unis sur le circuit d'Austin au Texas, eh bien c'est évidemment l'énorme crash qui a eu lieu entre Lance Stroll et Fernando Alonso. On est au 22e tour, explication pour la 7e place entre donc le pilote Aston Martin et le représentant d'Alpine. Stroll s'écarte pour fermer la porte donc à Fernando Alonso. L'Espagnol décolle littéralement sur la roue arrière droite de Lance Stroll, retombe un petit peu plus loin par chance sur ses quatre roues, à peu près dans l'axe. Il vient juste toucher le rail sur la gauche. Alonso qui va même pouvoir poursuivre son Grand Prix, aller jusqu'à l'arrivée, franchir la ligne d'arrivée en 7e position. Il sera ensuite pénalisé parce qu'il va perdre un de ses rétroviseurs. Et on va y revenir à cette pénalité. Mais Julien, je te propose déjà qu'on s'intéresse à cet accrochage avec cette mauvaise manie, hein, compris les pilotes, certains pilotes, pas tous, de zigzaguer, de changer de direction en ligne droite pour barrer la route à leur adversaire. La direction de course a quand même réagi, ça lui vaut 3 places de pénalité sur la grille du Grand Prix du Mexique. J'aimerais d'abord qu'on vous redonne quand même l'élément de loi, le texte, hein, le texte du règlement. Alors, il a fallu chercher, hein, c'est l'annexe L, chapitre 4 du code de conduite sur circuit, article 2, alinéa B. Voilà, une fois que tu as trouvé, tu es content. Alors, cet article stipule un seul changement de direction pour défendre une position est autorisé. Jusque-là, on a envie de dire, il a fait qu'un seul changement de direction. Et déjà, je trouve que c'est trop, un changement. Quand on est en pleine ligne droite à 300 km/h, je trouve que c'est dangereux. Et puis, il y a cette deuxième partie de la phrase, hein, voilà, tout pilote revenant vers la trajectoire de course, blablabla. Tout autre changement anormal de direction strictement interdit. Je pense que c'est là-dessus qu'on s'est basé du côté des commissaires pour donc donner cette pénalité de 3 places. C'est quand même une sale manie qu'on a vu beaucoup se développer ces dernières années.
Oui, et d'ailleurs, l'arrivée de Max Verstappen en F1 n'y est pas étrangère, parce que c'était un petit peu sa spécialité sur ses premières saisons. Il s'est beaucoup calmé depuis, mais c'est ce qui aussi a fait accepter cette espèce d'habitude, parce que Stroll l'a fait, a été pénalisé dimanche. Beaucoup d'autres l'ont fait aussi.
Magnussen, souvent connu pour ses défenses très très rugueuses.
Pérez également est un grand spécialiste. Bref, c'est quelque chose qui vraiment est devenu une quasi-habitude, qui est désormais tolérée, qui rentre aussi dans le cadre du « let them race », laissez-les courir. Donc c'est toujours aussi dangereux, ça n'a pas changé. Le problème, c'est que ça crée aussi une forme d'injustice, parce que si on doit maintenant pénaliser les pilotes qu'à partir du moment où il y a un accident derrière, c'est pas tout à fait logique.
Ouais, ça veut dire que si vous êtes derrière, que vous essayez de dépasser et que vous freinez pour éviter l'accident, finalement, c'est vous qui êtes pénalisé.
Absolument. D'autant que, pour revenir sur ce crash-là spécifiquement, on a entendu l'argument du « oui, mais Alonso a déboîté très tard ». Oui, mais prenez le problème à l'envers, si Lance Stroll se décale pas sa trajectoire, Alonso pourra déboîter très tard, il n'y aura pas eu de problème.
Oui, puis c'est de tout temps qu'on prend l'aspiration jusqu'au dernier moment pour essayer de déboîter son adversaire. Ça, c'est, quand il n'y avait pas le DRS, c'était encore très utile. Ça a été un petit peu effacé parce qu'avec le DRS, on comprend bien qu'il n'y a plus vraiment besoin d'être aussi près. Mais là, s'il n'y a pas cet écart, clairement, il n'y a pas cet accident. Et honnêtement, tu vois, là, il y a eu au Japon, il y a eu l'histoire de la grue qui était présente sur le bas-côté de la piste pour évacuer la voiture de Carlos Sainz. La colère de Pierre Gasly. Et je trouve que du côté de la FIA, finalement, on a réagi assez vite où on est en train de remettre en place un nouveau protocole, parce qu'on comprend bien que ça n'est pas parce que la voiture de sécurité est en piste que les dépanneuses peuvent entrer sur les abords de la piste. Et il va y avoir un échelon supplémentaire de communication d'installer entre la direction de course et les équipes. On va attendre que le peloton soit regroupé pour évacuer une voiture, et on préviendra à ce moment-là les équipes qu'un engin est en train d'intervenir. Je trouve que là-dessus, finalement, tu vois, on a tiré les conséquences de ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'accident grave, tant mieux, et on en a tiré les conséquences. J'espère que ça va être la même chose pour ce qui s'est passé là à Austin, parce que clairement, c'était un accident potentiellement létal. Alonso, il retombe, je le disais, sur ses quatre roues, à peu près dans l'axe, il vient s'appuyer sur le rail. C'était pas très grave, à quelques dizaines de mètres près, il pouvait se prendre l'éperon du rail. Ça pouvait être un accident mortel pour Fernando Alonso. Et à ce moment-là, on aurait statué. À ce moment-là, on aurait dit, il faut faire quelque chose, et on aurait fait quelque chose. Autant être proactif et changer tout de suite ce règlement. Je ne sais pas comment il faut s'y prendre. Hein. Je suis pas à la place des spécialistes, mais clairement, il faut éradiquer cette mauvaise manie, qui me semble un petit peu venue aussi du fait que les voitures étaient tellement sûres sont tellement sûrs, et heureusement d'ailleurs, tant mieux, que bon, on peut se permettre des choses qu'on
ne
pouvait pas se permettre il y a 20 ou 30 ans, parce que sinon, bah, là, un accident comme ça il y a 20 ou 30 ans, c'était la destruction de la voiture.
Absolument, oui, il y a un peu de ça aussi. C'est une évolution globale depuis plusieurs années. Malheureusement, j'ai peur que sur ce côté-là, on ne soit pas proactif et qu'on continue de laisser faire parce que ça crée du show, ça crée du spectacle et c'est aussi ce que veulent les promoteurs de la Formule 1.
Cette manie-là de défendre, finalement, de faire obstacle à son adversaire et qui s'est développée ces dernières années. On a demandé quel était son sentiment à Simon Pagenaud qui va nous rejoindre dans la dernière partie de l'émission. Mais écoutez ce qu'il dit sur voilà, des conditions de course, des adversaires qui sont de plus en plus rugueux au fur et à mesure que les années passent.
Très honnêtement, ça dépend beaucoup des directeurs de course, en fait. Enfin, pas seulement du directeur de course, mais des stewards qui permettent, je dirais, des coups comme ça. C'est-à-dire, s'ils autorisent aux pilotes de pouvoir faire des actions comme Lance a fait sur Fernando Alonso, alors les autres s'en rendent compte et ils utilisent le règlement le plus loin possible jusqu'à la limite. Et là, on a atteint une limite, c'est-à-dire que le DRS permet une telle vitesse de pointe à la voiture qui est derrière que la distance de rapprochement est tellement rapide que parfois c'est difficile de bien le juger. Et là, malheureusement, ça aurait pu être très dangereux pour Fernando. Heureusement, sans gravité pour les deux pilotes, mais c'est pas des actions c'est des actions qui font peur à voir, honnêtement, qui sont pas. C'est limite, c'est vraiment limite, et il faut faire attention à ce genre d'action.
Ça, c'est pour l'accrochage, finalement. Donc, Lance Stroll a été pénalisé de 3 places sur la grille de départ du prochain Grand Prix. C'est à peu près logique. Oui, logique. Gentil quand même comme pénalité parce que et c'est là qu'il y a un sentiment d'injustice. Stroll lui il pourra rattraper ces 3 places de pénalité sur la grille de départ, alors que Fernando Alonso lui lors de cet accrochage il y a un de ses rétroviseurs, le rétroviseur droit en l'occurrence, qui a été endommagé, qui s'est mis à bouger pendant un long moment. C'était donc au 22e tour et il l'a perdu finalement, ce rétroviseur droit, au 49e tour, soit en gros, 50 minutes plus tard. Et à aucun moment, la direction de course n'a présenté un drapeau noir à rond orange à Fernando Alonso, lui intimant l'ordre éventuel de rentrer pour réparer ce rétroviseur. C'est considéré comme un élément de sécurité, ce qu'on peut bien comprendre, parce que ça aide à voir ce qui se passe derrière. Il n'y a pas eu de rappel dans les stands de la part de la direction de course. Et finalement, après l'arrivée, on lui a attribué un stop and go de 10 secondes. Vous comprenez bien qu'après l'arrivée, on ne peut pas faire un stop and go.
Compliqué.
Et ces 10 secondes de pénalité ont donc été commuées en 30 secondes ajoutées à son chrono total. Ça veut dire que lui qui a passé la ligne d'arrivée en 7e position, 30 secondes de plus, ça le met 15e. Catastrophe, ça enlève 6 points à Fernando Alonso et ça enlève 6 points aussi à Alpine.
Et c'est ce qui crée donc l'incohérence des pénalités, parce que ces places-là, il n'a évidemment pas pu les récupérer. Alors que Stroll s'en sort plutôt bien, alors qu'à la base, c'est quand même Alonso la victime du crash. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Alpine lors de ses discussions avec la direction de course pendant la course. Globalement, tout est logique. On l'a dit, que Haas porte réclamation parce qu'elle a eu, notamment avec Kevin Magnussen, des drapeaux noirs à rond orange pour des éléments qui étaient instables et qui étaient jugés dangereux. Haas a été pénalisé. Elle estimait donc que Fernando
Tout le monde doit être pénalisé. Donc,
ce qui est logique.
Alonso aussi. Ce qui n'est pas illogique, effectivement.
Ce qui est logique, que l'élément rétroviseur soit considéré comme un élément de sécurité primordial, là aussi, c'est logique. Maintenant, qu'on ne soit pas capable de statuer pendant la course et donc, quelque part, qu'on prive Fernando Alonso de cet exploit, qui est un exploit quand même monumental, ce qu'a réalisé l'Espagnol hier en course, pour moi, c'est un petit scandale. Le problème dans tout ça, c'est quand même faut tenir compte de la performance sportive. On peut prendre un contre-exemple très simple. Souvenez-vous de Silverstone 2020, si je ne dis pas de bêtises. Hamilton qui termine sur ses 3 roues. J'ai quand même tendance à penser qu'il n'était pas beaucoup plus en sécurité qu'Alonso, ni d'ailleurs ceux qui le suivaient derrière avec un pneu qui se délaminait complètement. On ne l'a pas pénalisé parce qu'il y a aussi l'esprit de la course.
On l'avait évoqué d'ailleurs avec Stéphane en disant que finalement, ça avait été plutôt une bonne idée de favoriser l'esprit, c'est-à-dire l'exploit sportif de tenir sur 3 roues plutôt que vraiment la lettre et de pénaliser Hamilton ce jour-là.
Donc soit on prend la décision de rappeler alors tout de suite Alpine et Fernando Alonso pour s'occuper de ce rétroviseur-là. Et dans ces cas-là, bah, y a plus d'exploit derrière, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Soit on laisse faire et on reste sur cette décision, parce que Alonso subir le choc qu'il a subi, avec cette montée d'adrénaline pendant le crash, l'impact que ça a sur la condition physique, sur la lucidité, et quand même être capable de revenir à cette septième position, ça reste un exploit monumental, peut-être beaucoup plus grand que ce qu'a fait Verstappen hier en rattrapant cet arrêt au stand raté. Donc là, on gaspille totalement l'exploit d'Alonso sur finalement une décision qui n'a pas été prise, sur un retard de décision.
Oui, parce qu'on a quand même, j'insiste là-dessus, hein, Jap, on a quand même quasiment 50 minutes entre le moment où il y a cet accrochage entre Lance Stroll et Fernando Alonso, donc le moment où le rétroviseur est endommagé, le moment où il le perd. Donc là, à la rigueur, on aurait pu l'obliger. Après, une fois qu'il l'a perdu, ben, il n'y a plus vraiment de raison. S'il n'était pas dangereux étant brinque-ballant, il est plus dangereux une fois qu'il est parti.
Finalement, le rétroviseur est beaucoup moins dangereux une fois qu'il est parti que quand il est brinque-ballant.
Donc là, c'est vraiment cette incohérence qui, encore une fois, attire l'attention. Et là aussi, hein, il va falloir faire quelque chose. Parce que oui, alors accessoirement, ça a des conséquences sportives. Ça veut dire que Alpine aurait pu avoir 12 points d'avance sur McLaren, et que bah, cette avance, elle est réduite de moitié parce que la 7e place, elle a été perdue, et que Alpine a marqué 6 points de moins sur ce rendez-vous. Là, on comprend aussi un peu le courroux de l'équipe française, parce que ça peut coûter très très cher. Et là, je parle vraiment en argent, hein. Vous terminez 4e ou 5e du classement, oui, des constructeurs, c'est pas la même histoire. Donc et alors, j'aimerais bien avoir aussi ton sentiment sur le fait qu'on a rappelé Magnussen parce qu'il lui manquait un morceau de l'aileron avant. On n'a pas rappelé Sergio Pérez. Il y a un sentiment qui se développe là, qui laisse penser qu'il y a un petit peu moins de pénalités qui s'appliquent à Red Bull plutôt qu'aux autres. On rappelle que Red Bull est toujours sous le coup d'une éventuelle pénalité pour avoir dépassé le budget aussi maximum de 2021. Ça tarde à tomber, cette sanction.
Alors, mon avis, c'est que je ne suis pas certain que la FIA cherche à avantager Red Bull. Je suis même certain qu'elle ne cherche pas à avantager Red Bull.
Elle aurait plutôt intérêt à faire l'inverse.
Ce qui est certain.
À sanctionner plus Red Bull.
Absolument. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il est beaucoup plus facile de sanctionner un Kevin Magnussen qui se bat pour une 13e ou une 14e place qu'un Sergio Pérez qui est en plein d'une remontée à Austin. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait cette divergence-là. De toute façon, on le voit bien, ce morceau d'aileron, il était aussi dangereux que les problèmes qu'avait eu Magnussen, je crois que c'était en Hongrie, si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, il y a une incohérence clairement aussi sur ce point-là.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire, hein, sur cet accrochage très très spectaculaire. Et encore, on est très heureux que ni Lance Stroll ni Fernando Alonso n'aient été vraiment blessés, parce que ça aurait pu avoir de très très graves conséquences. Et donc sur, bah, de nouveau, les incohérences des pénalités infligées par les commissaires de la FIA. La troisième partie de notre édition des Fous du Volant aujourd'hui, avec un invité de marque, Simon Pagenaud, champion IndyCar en 2016, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis en 2019, invité régulier des Fous du Volant, et puis aussi vainqueur des 24 heures de Daytona cette saison. Bonjour Simon Pagenaud.
Bonjour, merci de me recevoir, c'est un plaisir.
Bon, on est ravis d'être en ta compagnie. Bon, saison un petit peu difficile quand même en IndyCar. On va parler déjà de cette saison 2022 pour toi. 15e place finale du championnat, ça n'a pas été la plus simple des saisons.
Non, c'est dommage, parce qu'on a un bien meilleur potentiel. Alors, pour débuter, c'était un gros changement cette année dans une nouvelle équipe. Une petite équipe qui a connu énormément de succès déjà, notamment avec la victoire d'Elio Castroneves en 2021 aux 500 miles d'Indianapolis. C'est la première année seulement en 2022 où ils avaient deux voitures à plein temps. Et je dois dire que on s'est rendu compte des difficultés, très honnêtement. On a encore beaucoup de travail à faire pour être au niveau des grosses équipes. On a un potentiel pour y être, c'est-à-dire qu'en vitesse pure, on était là, mais malheureusement, on n'a pas su, surtout en deuxième partie de saison, on n'a pas su conclure. Donc, on est en train de bosser là-dessus en ce moment. C'est honnêtement un plaisir, parce que je suis dans une équipe qui est à fond derrière moi et qui me permet vraiment de m'impliquer à 100%, et c'est ce que je souhaitais. Donc, je peux vraiment travailler dans les coulisses avec l'équipe autant que je veux. Mais c'est vrai qu'on a une saison difficile au niveau des résultats. Il faut se concentrer sur la performance personnelle pour garder la motivation. Mais on a vraiment du potentiel pour l'année prochaine. On va essayer d'accrocher un top 6 l'année prochaine. Et après, on essaiera d'avoir des ambitions plus élevées.
Ce qu'on a vu dimanche dernier du côté du Texas, mais qu'on avait plus ou moins vu en Floride déjà pour le premier passage de la Formule 1 cette saison aux États-Unis, c'est un parterre de vedettes incroyable, un Brad Pitt qui fait un tour de piste avec Charles Leclerc, Brad Pitt qui est venu chercher des idées de scénario pour son film. Il n'a pas besoin de venir en Formule 1, il suffit de regarder Netflix, on peut en inventer des histoires sur la Formule 1. Et je me dis finalement, en IndyCar, il y a autant de vedettes ou au 500 miles, on peut retrouver l'équivalent? Je me trompe?
Au 500 miles, oui. C'est vraiment le seul endroit, très honnêtement. C'est l'ère Netflix, très franchement. La F1 connaît une croissance énorme aux États-Unis grâce à ce que Netflix a conçu. On en parle tous les jours, très honnêtement. À chaque fois que je rencontre quelqu'un aujourd'hui aux États-Unis, on me dit « Ah oui, la F1, je suis !» parce que Netflix, c'était extraordinaire. Et voilà, c'est un super coup marketing pour eux.
Ouais, j'aimerais bien savoir ton idée, parce qu'on voit bien que les dirigeants de la F1 veulent faire progresser l'audience de la Formule 1 aux États-Unis, mais toi qui connais ces deux publics, le public de la Formule 1 et celui de l'IndyCar, on sait que les Américains, ils sont, j'allais dire, c'est des spectateurs presque tactiles. Ils veulent être très près des voitures, des pilotes. En Formule 1, c'est très cloisonné. Ça ne va pas être un plafond de verre à un moment, ça, pour le développement de la Formule 1 aux États-Unis?
Gilles, c'est une bonne question, parce que je pense qu'il y a deux types de fans. Il y a les fans qui veulent toucher ce qui est intouchable, et la F1 rentre dans ce critère-là, très honnêtement. Et il y a les fans qui veulent absolument vivre l'expérience de l'intérieur. On s'en rend compte avec IMSA, donc les courses d'endurance. Le petit Le Mans, c'est absolument incroyable. Il n'y a pas de place pour circuler, très honnêtement, sur le circuit. C'est plein à craquer. Mais c'est des gens qui viennent avec leur motorhome sur le circuit, qui se garent et qui vivent la semaine des essais de nuit, des qualifications et la course. Donc, ils sont là-bas pour la semaine complète et c'est une expérience. Ce qu'on a vu à Austin, c'est différent parce que les gens ont vraiment un accès limité. Mais par contre, ce que j'ai vu à Miami, c'est que les promoteurs de la course font un effort énorme pour que les gens vivent quelque chose d'extraordinaire. Et je dois dire que c'est ce qu'ils font très, très bien en ce moment.
Et si on prend le point de vue pilote, est-ce qu'on vit une course différemment quand on est aux États-Unis par rapport à l'Europe?
Quand on est... Ce que j'allais dire, c'est que c'est très différent pour moi qui suis venu voir la Formule 1. Ah oui. L'expérience est hyper différente de moi qui vais voir une course d'IMSA ou si j'allais voir une course de NASCAR, par exemple. Donc, parce que l'accès est hyper limité. Et le spectacle, très honnêtement, il est quasiment en dehors de la piste. La piste est chouette. Bon, en ce moment, on a des belles batailles, c'est sympa. Mais ce qu'on voit autour, c'est génial. C'est très, très bien fait.
On se posait la question depuis quelques semaines avec la venue et puis finalement la non-venue de Andretti en Formule 1, les points manquants aussi à Colton Herta pour rouler en Formule 1. On se demandait s'il n'y avait pas une sorte que la F1 ne toisait pas un petit peu, ne snobait pas un petit peu l'IndyCar, parce que quand on voit le nombre de points marqués pour avoir la super licence, finalement, ce qu'on marque en IndyCar, c'est comparable à la Formule 2. Vous en parlez, vous, entre pilotes ou dans le monde de l'IndyCar?
Je ne parle pas beaucoup aux autres pilotes, très honnêtement. Je suis un peu cloisonné. Mais bon, mon opinion personnelle, c'est que c'est simple, l'IndyCar n'est pas un championnat FIA, donc ça complique les choses pour un pilote comme Colton Herta de pouvoir engranger des points, ce qui lui permettrait d'aller en F1. En même temps, il est vrai qu'il n'a pas fini dans les 5 premiers du championnat non plus cette année, donc ça limite. Je trouve que le système qu'a mis en place la F1 est un bon système. Pour aller en F1, il faut avoir, je dirais, montré, fait ses preuves auparavant. Et avec ce système, il n'y a pas le choix, il faut vraiment le montrer. Maintenant, Colton, c'est sûr qu'il a le talent, il en serait tout à fait capable. Mais il n'y a rien qui l'empêche d'aller, comme l'a dit Otondo d'ailleurs, d'aller en Formule Indienne. Je crois que c'était en Formule Indienne. Oui. En Asie, je ne sais plus. Enfin, c'était Formule 3 en Asie, je crois.
Oui. Il y a des championnats régionaux.
Championnats régionaux de la FIA qui sont régis par la FIA, où ils pourraient marquer des points. Donc c'est faisable. C'est une question de pouvoir le faire et d'en avoir le temps.
Simon, on voulait profiter de ton expérience aux États-Unis pour faire une autre petite comparaison entre la Formule 1 et l'IndyCar et évoquer notamment les circuits en ovale. On a vu que pour des pilotes européens ou des pilotes de Formule 1, il y avait quand même une vraie appréhension, on peut prendre l'exemple de Romain Grosjean, sur les circuits ovales. Finalement, quelle est la différence entre un circuit traditionnel et un circuit ovale? Qu'est-ce qui fait le plus peur? Est-ce que c'est le danger? Est-ce que c'est la vitesse?
Peur, c'est un grand mot. Une appréhension, c'est sûr. Ça, c'est certain, parce que bon, c'est les 500 miles d'Indianapolis, par exemple, c'est la course, c'est pour nous en tout cas, la plus grande course du monde pour les pilotes d'IndyCar. Et De par l'intérêt des gens qui suivent, c'est la plus grande course du monde, c'est la course la plus rapide du monde. Donc forcément, plus on va vite, plus il y a de risques. Et là, le risque, c'est de taper le mur. Donc quand on tape à 400 km/h, on ne sait pas où la voiture va s'arrêter, on ne sait pas dans quel état non plus. Donc forcément, c'est des appréhensions que tous les pilotes ont avant le départ. C'est une course où on prend plus de risques. Le plus de risques de la saison, tout simplement parce que c'est la course la plus importante. Forcément, il y a des enjeux différents. C'est clair que lorsque j'ai participé pour la première fois aux 500 miles d'Indianapolis, j'avais une grosse appréhension à cause de la vitesse, à cause de la proximité des autres concurrents et de l'enjeu. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, très honnêtement. Faut être en paix avec soi-même, je dirais, lorsqu'on prend le départ, avec les risques qu'on va prendre. Et ça, c'est quelque chose que, à mon avis, chaque pilote, c'est différent pour chaque pilote.
Et puis, l'autre particularité, c'est évidemment qu'à Indianapolis, on part à trois de front en sport auto. C'est unique maintenant. Ça se fait plus, hein, ce genre de choses.
Ouais, il faut. C'est particulier parce qu'on n'a jamais pratiqué la ligne du haut dans le premier virage, par exemple. Donc, on a plusieurs lignes à pouvoir utiliser. Et c'est la première fois de la course où on peut justement, la première fois depuis les essais où on peut utiliser cette ligne. À ces allures-là, c'est vraiment quelque chose de se jeter dans le vide, c'est quelque chose d'incroyable.
Je voulais aussi avoir ton œil sur une chose dont on n'a pas parlé ce week-end, mais on aurait pu, avec ce qui s'est passé. La différence entre le halo et l'aéroscreen. On a déjà vanté et à raison les bienfaits du halo. Quelle est ta vision sur cette comparaison-là? On sait que l'un a des avantages que l'autre n'a pas et inversement. Qu'est-ce que tu en penses de cette comparaison-là?
Très honnêtement, je pense que c'est pas parce que je suis pilote d'IndyCar, mais on a vécu des choses difficiles en IndyCar avec des débris, notamment avec l'accident de Justin Wilson qui malheureusement a été fatal. Je ne sais pas si dans la situation de l'aéroscreen ou du halo, ça aurait fonctionné, puisque le débris venait du haut, ce qui est totalement improbable. Mais dans d'autres accidents, comme il y a eu, notamment à Texas pour nous, il y a eu un accident avec, il me semble que c'était Kyle Mylott, qui a, enfin, grâce à l'aéroscreen, il n'a pas reçu un débris sur le casque. À ces vitesses-là, très honnêtement, ça aurait été fatal. Donc ça a sauvé au moins une vie, ce qui est très important. Et en tant que pilote d'IndyCar à des vitesses aussi élevées, on n'a pas le temps de voir un débris qui vole. Donc, pour moi, l'avancement de la sécurité en Indy a été exceptionnel. Et je trouve qu'il y a encore un sentiment de danger en F1. Si justement il y avait des débris qui volaient dans un casque, le pilote ne pourrait rien faire. Donc, pour moi, l'aéroscreen est plus sécurisant. Il y a en effet cette bulle qui nous protège, ce pare-brise en quelque sorte. Ça change un petit peu le look de la voiture, mais pour la sécurité, je trouve que c'est une très, très bonne chose.
Si on en revient au développement de la Formule 1 aux États-Unis, il y a l'arrivée possible de Logan Sargeant l'année prochaine. Donc, il y a un jeune pilote de Formule 2 en ce moment qui est américain. Il doit terminer dans les 5 premiers de la saison, là encore en cours en Formule 2 pour aller avoir ces points de super licence pour aller ensuite en Formule 1 l'année prochaine. Apparemment, ça serait chez Williams. Oui, Williams. C'est ça. Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut donner un attrait supplémentaire encore au public américain?
Ah oui, c'est sûr. D'avoir un Américain, c'est une bonne chose. Après, moi, ce qui me surprend beaucoup avec les Américains, c'est qu'ils sont je m'en suis rendu compte de mon côté, ils sont capables de soutenir un pilote étranger jusqu'au bout, alors qu'il y a d'autres pilotes américains dans le championnat. Et je trouve que c'est un petit peu différent de ce qu'on peut vivre en France ou en Europe. J'ai le sentiment que les fans français vont soutenir un Français jusqu'au bout. Je ne sais pas, il y a une petite différence à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est la taille du pays qui fait cette différence, mais en tout cas, je pense que si Logan Sargeant est en F1, ça aidera sans doute à ce que la F1 continue de grandir. Mais on est arrivé à des niveaux assez exceptionnels quand on a vu ce qui s'est passé à Austin.
Mais ce que tu me dis, ça me fait penser à une autre question. Tu es encore français.
Ah oui,
Simon.
Tout à fait français, jusqu'au bout.
deux Français chez Alpine, ça te fait quoi?
Ben, je suis, c'est vrai, de Team France, hein. C'est génial. Alors, en plus, je connais pas mal de personnes à Alpine, notamment avec Bruno Famin qui est là-bas. Ça marche fort en ce moment. Donc ça fait
ancienne connaissance de chez Peugeot.
Chez Peugeot, ça fait plaisir à voir. Et Esteban, je trouve, fait du super, super boulot. Je trouve qu'il ne reçoit pas autant de... Aux États-Unis, on dit autant de crédit qu'il devrait recevoir pour le bon boulot qu'il fait. Et ça va être un beau duo. On va voir comment ça se passe. Et je suis content pour Pierre aussi, qui est un bon pote. Donc, on va voir ce qu'ils nous font, nos Français. Mais ça va faire plaisir d'avoir un Team France.
Simon, tu me trompes pas si je dis que tu as un petit passé. En tout cas, tu as fait des études de management.
Oui.
Donc, je voulais en profiter pour avoir ton avis sur le cas Daniel Ricciardo, parce qu'on l'a vu très très affecté vraiment sur des images de Canal+ hier après la course qui a été difficile pour lui. On sent que moralement c'est très dur, parce qu'évidemment il y a aussi la question de son avenir à court terme. Comment tu as vu, toi, de ton œil de pilote et aussi de quelqu'un qui a des vraies notions de management, sur la gestion de son cas chez McLaren depuis plusieurs mois?
Ouais, c'est une situation hyper difficile pour un pilote. Et bon, Daniel, c'est pas n'importe qui non plus. C'est quand même quelqu'un qui a tenu la dragée haute à Sébastien Vettel quand il était à son plus haut niveau. Pour moi, c'est un super pilote. Quand il est venu chez Renault, au début, il a souffert un peu. Et d'un seul coup, ça s'est mis vraiment à marcher très, très fort. Et sa sortie pour aller chez McLaren m'avait surpris parce que ça marchait tellement bien chez Renault. Je me dis que c'était la bonne équipe pour lui. Maintenant, peut-être qu'il avait quelque chose dans sa tête, mais il est clair que ce qu'il vit et ce qui se passe clairement, il a du mal à s'adapter, ça c'est sûr. Et malheureusement, quand on n'est pas à l'aise, c'est comme quand on marche dans une chaussure qui est trop serrée, on ne peut rien y faire. Donc, je suis sûr qu'il aimerait changer son pilotage, je suis sûr qu'il aimerait pouvoir ressentir la voiture différemment. Malheureusement, je crois que Rafa Nadal, il joue avec le bras gauche, il ne joue pas avec le bras droit. Donc, c'est un petit peu la même chose pour l'expliquer de manière simple. Malheureusement, il est contre Norris, qui, lui, s'adapte très bien, qui n'a connu en effet qu'une seule voiture. Donc, peut-être que la philosophie de l'équipe lui convient au niveau du pilotage. Mais il y a des raisons claires pour lesquelles ça doit être très dur mentalement à vivre. Et puis, avec ce qui se passe chez McLaren et 8000 pilotes qu'ils ont signés sous contrat, ça doit être très, très dur à vivre. Donc, je le comprends tout à fait. J'ai vu qu'il avait fini dernier en fait hier, puisque tous les autres ont abandonné. Donc pour Daniel Ricciardo, c'est très très dur.
Mais le management américain des pilotes, il est quand même parfois un petit peu ardu, parce que on a entendu Gene Haas dire de Mick Schumacher, ouais, il est bon, mais il nous coûte une fortune. Va falloir qu'il marque des points s'il veut compenser. On a vu Zak Brown finalement mettre la pression dans un premier temps et puis se séparer clairement de Daniel Ricciardo. Toi, tu sens une différence dans la façon de manager selon que les patrons soient américains ou autres? Un Christian Horner, c'est pas, ou un Helmut Marko, c'est pas détendre non plus, mais il y a peut-être une façon d'aborder les choses différemment, je sais pas, ou tu peux me dire
c'est
non.
C'est ce que j'allais dire, c'est pas détendre non plus. Je pense juste qu'en fait, ils sont brutalement honnêtes, ce qui me surprend un petit peu les Américains, parce que c'est pas la tendance, c'est plutôt le contraire. Mais en effet, ils sont agressifs dans leur façon de parler aux médias, mais ils sont honnêtes également. Donc parfois, c'est difficile de se cacher. Et je pense que Toto Wolff aurait peut-être agi différemment, ça c'est sûr. Donc voilà, après, chaque équipe est différente.
Simon, j'ai une dernière question à te poser. On a parlé de l'IndyCar, on a parlé beaucoup de Formule 1. J'évoquais ta victoire à Daytona en début de saison. C'était avec une Acura. Il me semble que Acura prépare une LMDH. Qu'est-ce que tu fais, toi, les 10 et 11 juin 2023? Tu seras où exactement?
C'est une bonne question.
C'est la deuxième fois que tu me dis ça, je suis content.
Non, c'est juste pour avoir le temps de pouvoir répondre ensuite. Écoute, très, très honnêtement, je rêve de revenir au Mans, ça c'est sûr. J'ai un programme d'IndyCar.
On rappelle que tu as déjà terminé deuxième aux 24 heures du Mans. Hein.
Et oui, donc j'aimerais bien pouvoir finir le chapitre. ce serait super et d'avoir les 500 miles. Et cette course-là au tableau de chasse, ce serait génial. Donc, c'est sûr que c'est un de mes objectifs de carrière. Il faut que je trouve la bonne situation. Il est clair que si Acura va au Mans, j'aimerais du voyage, ça c'est certain.
Je le dis pour les gens qui regardent la pastille ou qui éventuellement écoutent le podcast, mais tu as le logo Honda sur ta chemise. Acura, c'est le département course de Honda Auto. Hein.
C'est ça, ouais, c'est ça. Et évidemment, ma carrière a vraiment débuté quand j'étais au sein d'Acura en 2008-2009. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu un volant chez Peugeot ensuite. Donc, il y a une grande histoire pour moi au niveau de toute ma carrière. Donc, c'est sûr que si Acura va au Mans, j'aimerais du voyage. Je ne sais pas encore si Acura sera du voyage, donc j'attends de savoir. Et en même temps, je me renseigne. J'ai discuté avec Richard Mille à savoir est-ce qu'il y a des sièges de libre. Au moins pour revenir et montrer mon nom au Mans, parce qu'en effet, c'est quelque chose que je souhaite faire dans le futur. Mais ma priorité reste mon programme IndyCar et je ne souhaite pas non plus que ça empathise sur ce programme-là. Mais je souhaiterais bien pouvoir faire les deux, ça c'est certain.
Bon, tu nous diras s'il y a du nouveau dans ce domaine.
Parce qu'après, en plus, s'il y a victoire au Mans, il faut faire le Grand Prix de Monaco de Formule 1.
Pourquoi pas? Il faut demander à Alpine, justement. J'aimerais bien au moins pouvoir faire des essais en F1. Ça reste la voiture la plus rapide au monde sur un circuit routier. J'aimerais bien pouvoir essayer quand même avant d'être trop vieux.
on va essayer de faire l'intermédiaire.
Si Laurent Rossi nous écoute.
Ouais.
Dites-lui à l'oreille comme ça.
Bah, tu sais, Alpine va arriver aussi au Mans, hein, alors en 2024. Alors, si tu es très très bon au Mans avec Acura en 2023, peut-être que 2024, voilà, non, on peut imaginer ça comme ça.
Je ne sais pas, je dis rien.
Merci beaucoup en tout cas, Simon, d'être venu nous rendre visite dans les Fous du Volant. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. L'année prochaine, même équipe en IndyCar, tu ne changes pas. Hein.
Même équipe, on est en train de bosser dur. J'ai passé quelques jours à l'écurie cette semaine. J'y retourne dans une semaine également pour continuer de travailler sur nos protocoles pour qu'on soit plus costaud l'année prochaine et qu'on puisse taquiner les Penske et les Ganassi.
On voit en tout cas, tu fais pas mal de choses hein, sur tes réseaux sociaux. On conseille à ceux qui aiment bien les sports méca et qui veulent s'intéresser notamment à ce qui se passe du côté de l'IndyCar. C'est une belle porte d'entrée, tout ce que tu publies. Parce qu'on voit que tu mets vraiment la main à la pâte dans ton équipe.
Ouais, ça permet aux gens de pouvoir me suivre, vraiment. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont... En aparté, on les utilise vraiment pour que les gens puissent nous suivre et c'est aussi un véhicule marketing, très honnêtement, qui nous permet d'avoir plus de partenaires. Si on a plus de partenaires, ça fait plus d'argent pour l'équipe et on a plus de performance ensuite. Donc, c'est un cercle et c'est un cercle qu'il faut absolument que ce cercle soit positif. Donc, on y travaille et personnellement, ça a été la plupart du temps une expérience positive des réseaux sociaux. Mis à part l'expérience avec Lando Norris, mais sinon, super.
Bon, tu nous remontres un coup, tu portes ta bague ou pas?
Toujours.
Ah, magnifique. Voilà, ça sera la dernière image, la bague des 500 miles d'Indianapolis de Simon Pagenaud.
Merci.
Merci à toi.
Merci.
Voilà donc cet entretien avec Simon Pagenaud, toujours très intéressant, sympathique. Il y a tous garçons, ouais. Et en plus vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. On va parler de ce qui nous attend la semaine prochaine, rapidement, Julien, avec ces horaires du Grand Prix du Mexique, par exemple.
Qui sont similaires, alors c'est pas tout à fait la même chose qu'au Grand Prix des Amériques, mais c'est similaire. On commencera les essais vendredi à partir de 20h, qualification samedi à 22h et course dimanche à 21h.
Voilà, sur le circuit des frères Rodriguez, on verra si Max Verstappen donc poursuit son rêve. D'abord, s'il détiendra seul le record de 14 victoires éventuellement en une saison, et si en plus il se laisse la chance d'aller améliorer le pourcentage de victoires, parce que ça c'est différent, mais ça on vous l'a expliqué aussi. Ben voilà, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Julien, on a tout dit sur ce Grand Prix des États-Unis. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le point après le Mexique. Et d'ici là, on coupe le contact.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.